Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un ingénieur, professeur à l'école des mines, président du think tank The Shift Project. Son expertise, son public nombreux et fervent ont fait de dire de lui qu'il était la rock star de la transition énergétique. Ça le fait déjà marrer. Vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Jean-Marc Jancovici, bonjour.
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 Et merci d'être à notre micro avant.
Ça vous fait marrer.
Oui,
hein,
ça vous fait.
Attendez, une rockstar, ça remplit le Parc des Princes, moi je remplis un amphi, ça n'a rien à voir.
Oui, mais avec les réseaux sociaux,
avec les réseaux sociaux
ça,
vous
ça fait plus
le...
que le Parc des Princes.
Non, j'ai aussi fait un petit calcul d'ordre de grandeur.
On vous connaît bien.
Ça,
là,
c'est l'ingénieur.
Vous prenez Rihanna, une vidéo ça fait 1 milliard de vues, moi une vidéo ça fait 1 million de vues.
Ah oui, si vous vous comparez à Rihanna tout de suite là.
Une rockstar, il faut que les mots aient un sens.
Voilà. Bon, donc... on y est, on a fait l'explication texte. On va analyser avec vous, évidemment, le bilan de la COP27, la feuille de route du gouvernement pour la transition écologique, la question de la sobriété. Un mot, tiens, sur nous et vous, pour commencer, nous, les journalistes. Vous avez longtemps pesté contre les médias en disant que sur tous ces sujets, on n'était pas au niveau. Maintenant, on ne peut plus allumer sa télé ou sa radio, ouvrir un journal sans vous voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Marc Jancovici? Est-ce que vous avez pris votre bâton de pèlerin ou est-ce que vous estimez...
On est moins con.
Voilà, qu'on est moins con et que la prise de conscience a progressé tout de même dans les médias et que le traitement de ces sujets-là est aujourd'hui tout de même de meilleure qualité et aussi de plus grande ampleur.
Alors on peut très bien être en progression tout en n'étant pas encore là où on devrait être. Les deux sont pas possibles. Donc c'est clair, oui, les médias ont quand même bougé par rapport à il y a 10 ans, ça c'est très clair. Mais par contre, il y a énormément de choses qui se passent dans les médias, et entre être invité quelque part et avoir partout et tout le temps un traitement de l'information qui soit satisfaisant, il y a une différence. Et puis par ailleurs, je considère pas que le fait qu'on m'invite comme étant le thermomètre majeur du fait que les médias racontent des bêtises ou pas de bêtises. Si j'essaye de synthétiser un peu ma position sur les médias, je trouve que le grand n'importe quoi, il s'est déplacé, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le grand n'importe quoi, il était encore sur la définition des problèmes. Alors aujourd'hui, il y a un problème qui reste encore très mal défini dans les médias, c'est le problème qu'on a coutume d'appeler sous le nom peak oil, c'est-à-dire la limitation géologique, et non pas pour des raisons climatiques, de l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Ça, c'est encore quelque chose qui passe totalement sous l'écran radar.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne comprend pas sur ça, par exemple ?
Vous n'en parlez pas. Il faut quand même savoir qu'en 2018, l'Agence internationale de l'énergie a dit que la production mondiale de pétrole dit conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste et les sables bitumineux, était passé par un maximum en 2008. Que depuis ça déclinait et que c'était le déclin terminal. C'était irrémédiable. J'en ai entendu parler nulle part dans les médias.
Enfin, sauf quand vous êtes venu parler de votre bande dessinée.
Oui,
ici.
D'accord, mais
je fais la petite parenthèse.
Nulle part sauf Epsilon, mais je veux dire, ma présence ici n'est pas l'ensemble des médias, c'est,
et
heureusement.
Bien sûr.
Donc il y a quand même sur cette partie-là aujourd'hui, on est encore très largement sous l'écran radar. Hein. Sur la partie changement climatique, là par contre, il y a beaucoup plus de place qui est donnée à la définition du problème. Mais c'est quand même difficile de rentrer dans les détails, parce que vous savez très bien que dans votre métier, c'est compliqué de capitaliser et de présupposer le mardi que l'auditeur, il a tout appris de ce qui a été dit le lundi. Donc il y a quand même un phénomène de répétition et pas trop de capitalisation. Mais ça, c'est l'eau de votre métier, c'est très difficile d'y échapper. Par contre, le grand n'importe quoi, il est passé sur les solutions aux problèmes. C'est-à-dire que maintenant, on entend beaucoup de bruit sur l'avion à hydrogène qui va permettre de sauver l'aviation commerciale, la voiture électrique qui va permettre d'avoir 1,2 milliard de véhicules particuliers d'une tonne et demie dans le monde, etc. Donc en gros, on exagère ou on rend excessivement simple la solution aux problèmes.
On va en parler. Là, pour le coup, ce n'est pas seulement les médias, c'est notamment la première ministre, Elisabeth Borne, qui, alors, pour le coup, prend le double exemple, celui-là.
J'insiste sur le fait que ce n'est pas France Inter, c'est d'une manière générale.
Non, mais on a compris. On vous fait sourire aussi.
Et là, du coup, on voit énormément d'informations qui sont reprises sans hauteur de vue, sans mise en perspective, et qui donnent l'illusion que le problème va être très facile à mettre sous contrôle.
Voilà, alors, c'est ça le... venons-en maintenant à la COP27. Un accord a été salué, un échec déploré également. On va commencer par l'accord de 196 pays qui ont décidé de créer un fonds pour les pertes et dommages afin d'aider financièrement les pays en développement, particulièrement vulnérables, à faire face aux dégâts irréversibles causés par le réchauffement climatique. Les pays du Sud portaient cette revendication, les pays du Nord rechignaient à l'affaire, ils ont finalement signé. Est-ce que ça va dans le bon sens ?
Alors la clause de pertes et dommages, la première fois que j'en ai entendu parler comme étant quelque chose sur lequel les pays se mettaient d'accord, c'était à Copenhague en 2009.
Vous dites que c'était la meilleure COP d'ailleurs.
Oui, absolument, c'était la meilleure COP parce que c'est la seule qui n'a pas suivi le processus onusien des COP. C'est la seule où il y a eu des vraies décisions et en particulier l'objectif politique des sous les 2 degrés date de Copenhague. Hein, c'est à ce moment-là que les États se sont mis d'accord sur cet objectif. Je vous avoue ne pas avoir regardé dans les détails ce que Sharm el-Cheikh avait amené par rapport aux COP précédentes sur la clause de pertes et dommages, enfin sur le fonds de pertes et dommages. Donc je ne sais pas quelles sont les avancées techniques qui ont eu lieu. Par contre, ce que je sais, c'est que le principe même, il est acté depuis longtemps.
Alors sur l'échec maintenant,
l'échec, Nicolas... c'est sur les énergies fossiles. Le texte mentionne seulement que les pays s'engagent à accélérer la réduction de l'utilisation du charbon et la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles. La même promesse que celle pour le coup prise l'an dernier. Le pétrole, le gaz ne sont pas évoqués. Là, c'est un échec à vos yeux. En 2022, j'ajoute, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas là. Hein.
Non, mais alors par contre, en 2022, le processus d'une COP reste le même qu'en 2000. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les COP, il y en a depuis 1995. Hein, et le fonctionnement même d'une COP fait que ça ne peut pas contraindre de l'extérieur des pays qui ne voudraient pas de l'intérieur avancer sur le sujet. Parce qu'une COP, c'est régi par des processus onusiens. Et dans le cadre des Nations Unies, sauf ce qui se décide au Conseil de sécurité, mais pour le moment, le changement climatique n'en fait pas partie, tout le reste se décide à l'unanimité par consensus. Donc, un parallèle que je prends souvent pour désigner ce qui se passe dans une COP, c'est imaginons que vous ayez un immeuble dans lequel vous avez 200 copropriétaires. Chaque copropriétaire dispose d'une voix, qu'il ait le penthouse du dernier étage ou un placard à balai au sous-sol. Vous avez un énorme dégât des eaux qui suppose de tout refaire dans l'immeuble. Chaque copropriétaire doit payer par contre au prorata de sa surface. Et vous démarrez la réunion le matin sans syndic, sans programme de travaux, sans personne qui arrive avec un projet de résolution. Chacun arrive en disant voilà ce que je pense qu'il devrait faire. Et il faut se mettre à l'unanimité d'accord le temps d'une journée.
Donc vous dites en fait les efforts, il faut les faire au niveau national ou
exactement.
Européen.
Donc en fait,
les grands raouts.
Alors c'est utile parce qu'on en parle. Ouais. Voilà. Donc ça sert à en parler. Il ne faut rien en attendre d'autre, de mon point de vue, sauf un peu de lissage éventuellement entre pays qui sont déjà d'accord pour avancer de façon importante.
Jean-Marc Jancovici, aujourd'hui les pays occidentaux et leurs gouvernements ont peur de manquer d'énergie. Vous le savez, pour se chauffer, on parle de coupure d'électricité peut-être en janvier en France. On rouvre les centrales à charbon, on crée des terminaux méthaniers. La crise énergétique, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation ne font-ils pas ralentir ou en tout cas passer la lutte contre le réchauffement climatique au second plan?
Alors, ça va un peu servir la lutte contre le changement climatique, cette affaire-là, parce que si on manque de gaz, on émet moins de CO2, et si on manque de pétrole, on émet moins de CO2, par la force des choses. Et en fait, ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur l'approvisionnement qui est limité par la géologie. C'est évident que les émissions de CO2 ne peuvent pas croître indéfiniment, ça n'existe pas sur une planète finie. Elles ne peuvent même pas rester indéfiniment constantes, ça n'existe pas plus sur une planète finie. Donc la seule question, c'est de savoir qu'est-ce qui les fera baisser un jour. Est-ce que c'est notre volonté, ou est-ce que c'est des événements externes, comme ceux que vous venez d'évoquer, ou d'autres? On peut avoir, comme dans Don't Look Up, une météorite, on peut avoir une pandémie, on peut avoir un effondrement économique, on peut avoir enfin tout un tas de trucs. Et si ce n'est pas l'un, ça sera l'autre. Et là, on est en train d'expérimenter un peu, malheureusement, l'autre. Il faut bien voir que Poutine, en fait, il ne fait qu'accélérer l'histoire. Je le redis, la production mondiale de pétrole conventionnel, le pic, c'était 2008. Et la production mondiale de pétrole tout compris, y compris le pétrole de schiste et les sables bitumineux, il est possible que ça ait été 2018. C'est un peu trop tôt pour le dire maintenant, mais il est possible que ça ait été 2018. Donc, de toute façon, on va devoir faire avec moins. Et on a tellement perdu de temps à ne pas comprendre qu'on allait de toute façon faire avec moins, qu'au moment où on est surpris par le moins involontaire qui arrive, bah à ce moment, on répond dans le désordre. Donc effectivement, on se dit « Ah bah tiens, on va avoir un problème avec le système électrique. » Bah oui, mais enfin, ces trucs-là, ça se gère avec des décennies d'anticipation. On va avoir un problème avec le système de transport. Mais enfin, on est passé de 2 à 40 millions de véhicules particuliers entre 1945 et aujourd'hui. Et un jour, on se dit « Ah bah tiens, il va falloir qu'on change. » Mais on ne va pas changer ça en une semaine. Donc en fait, c'est ça notre problème. C'est qu'on n'arrive pas à raisonner sur les bons horizons de temps. Pour plein de raisons. Mais et donc, un jour, on se retrouve surpris.
Léa, on disait un mot, venons-en à la France. La première ministre Elisabeth Borne a présenté la semaine dernière sa stratégie en matière de politique énergétique. Elle a décliné trois leviers. Sobriété, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Une production décarbonée grâce au nucléaire et aux renouvelables. Et enfin, l'innovation avec l'hydrogène. Que pensez-vous de cette feuille de route? Est-ce que les bons mots sont là?
Alors, les bons mots sola, sauf que quand il s'agit de passer aux actes, les bons actes ne sont pas nécessairement là. Je vais donner un exemple de sobriété, qui est un exemple qui ne porte pas sur l'essentiel de la consommation de pétrole dans ce pays, mais qui est le 110 sur autoroute.
Alors, justement.
Sauf à ce que j'ai été très mal informé, je comprends que notre première ministre n'y est pas très favorable.
Non, elle a dit non.
Or, c'est une mesure de sobriété. Et non seulement c'est une mesure de sobriété, mais c'est une mesure de sobriété à laquelle, sauf à ce que je sois également très mal informé, la majorité de la population est désormais favorable. Donc je ne comprends pas ce qu'elle fait. Je vais vous donner un autre exemple sur les mesures de sobriété. Il y a un sujet sur la température dans les logements. Alors ça, en fait, ça fait depuis les chocs pétroliers qu'on a normalement une obligation réglementaire en France de limiter la température à 19 degrés. Vous avez énormément de bâtiments dans lesquels ce n'est pas le cas. Alors, bon, certes, c'est une mesure de sobriété, on peut dire, c'est pas très sympathique parce que, enfin, 19 degrés, c'est quand même pas la mort.
Vous, vous chauffez à 19 degrés depuis toujours chez vous ?
Probablement un peu moins.
Ah ouais. Vous caillez ?
Bah, je mets un pull.
Ouais. Un col roulé ?
Un col roulé, je mange des soupes. Non, je plaisante. La question de la sobriété, c'est que pour que ce soit efficace, il faut pas que ça reste un mot. À un moment, il faut parler mesures concrètes et il faut parler impact quantifié des mesures concrètes.
Mais quand même, quand vous regardez les chiffres de RTE qui montrent que la tendance est à la baisse de la consommation le dernier mois, il y a quand même une prise de conscience et des actes aussi. Le RTE dit que la consommation d'électricité a baissé de 6,5% de moyenne par rapport à la période 2014-2019. Vous saluez quand même ça ?
Est-ce que RTE précise si c'est pour des raisons climatiques, parce qu'on a eu un mois d'octobre extrêmement doux et un début novembre extrêmement doux, ou pas ? Parce que ça peut être la première raison. Je vous avoue ne pas avoir regardé cette déclaration, mais la première chose à laquelle je pense, c'est ça.
Elisabeth Borne a déclaré par ailleurs que la transition énergétique va de pair avec la croissance et la création d'emplois. Elle va accompagner la réindustrialisation et permettre l'émergence de secteurs et de filières d'avenir. Transition énergétique et croissance verte, vous êtes d'accord ou c'est un mythe ?
Je pense que c'est un mythe. Alors, Elisabeth Borne, elle fait un métier comme tous les politiques qui consiste à dire que tout est sous contrôle. Donc, tout est sous contrôle, ça veut dire qu'on va à la fois avoir la croissance économique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour l'État, pas de croissance économique ? Ça veut dire des recettes fiscales qui baissent et ça veut dire le spectre du chômage. Bon. Donc en fait, sur le fond, c'est pas tellement la croissance, c'est le fait que chômage et pas de recettes, ça c'est quelque chose pour lequel l'État n'est pas prêt parce qu'il n'y a pas de plan B pour ce genre de situation. Quand on regarde ce qui a fait la croissance économique des deux derniers siècles, c'est essentiellement l'ère des machines. Donc l'ère de l'énergie. En fait, l'énergie renouvelable, c'était la totalité de l'énergie qu'on utilisait il y a deux siècles et demi, et la civilisation industrielle a consisté à sortir des énergies renouvelables, et pas du tout à y rentrer.
Et là, on y retourne, aux énergies renouvelables.
Alors oui, mais est-ce qu'on va garder la civilisation industrielle ? Ce dont on a fait la preuve pour parler des énergies renouvelables, en particulier de l'éolien et du solaire, parce qu'en général, c'est ça qu'on a en tête quand on parle d'énergie renouvelable. Ce dont on a fait la preuve sur les 20 dernières années, c'est qu'on savait fabriquer plus d'éoliennes et de panneaux solaires dans un monde qui, par ailleurs, a doublé sa consommation de charbon et a augmenté de 50% sa consommation d'énergie fossile. Donc, en fait, dans un monde mondialisé, où c'est très facile de mettre en France le résultat de l'exploitation des mines ailleurs, de la pétrochimie ailleurs et des porte-conteneurs partout dans le monde, on a fait la démonstration que, dans ce contexte-là, on savait installer des éoliennes et des panneaux solaires. Mais est-ce qu'on saura toujours le faire dans un contexte dans lequel il n'y a plus de mondialisation, plus de porte-conteneurs et plus de camions ? Pas sûr. Donc, on voit bien que les énergies renouvelables, il y a trois siècles, ce n'est pas les machines technologiques qu'on utilise aujourd'hui. Ça n'a rien à voir.
Jean-Marc Jancovici, il y a les renouvelables et il y a le nucléaire. La France se félicitait sur le nucléaire. C'était notre grande fierté. On était indépendants, on était souverains grâce au nucléaire. Et aujourd'hui, et Dominique Seux le rappelait dans son édito tout à l'heure, seuls 32 des 56 réacteurs nucléaires français fonctionnent. Qu'est-ce qui s'est passé sur le nucléaire ? C'est un problème de moyens, c'est un problème chez EDF, c'est un problème de volonté politique. Comment on se retrouve aujourd'hui avec cette crise où on a 32 réacteurs seulement qui marchent sur 56 ?
Quand vous dites qu'on s'est félicité sur le nucléaire dans ce pays, c'est oublier un peu vite que sur cette antenne et quelques autres du même groupe, on n'a pas vraiment dit du bien du nucléaire pendant assez longtemps. Donc non, on ne s'est pas vraiment félicité du nucléaire. En fait, la coloration dans le débat public sur le nucléaire ces 20 dernières années s'est baladée plutôt quelque part entre « bon, on en a, mais il ne faut pas le dire trop fort » jusqu'à « ça serait quand même bien qu'on n'en ait pas ».
Alors justement, pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec tous ces réacteurs qui sont en panne, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Est-ce que ça vous inquiète ?
Alors non, ça ne m'inquiète pas spécialement, parce que en fait, il n'y a pas que des réacteurs en panne, il y a également des réacteurs qui ont été en décalage de maintenance, parce qu'on est dans la suite du Covid, où il y a eu, à cause du Covid, des perturbations dans la possibilité de maintenir des réacteurs et une diminution de leur production. Donc il y a aussi de l'uranium qui est resté, enfin des assemblages qui sont restés plus longtemps dans les réacteurs parce qu'il n'était pas question de les sortir avant que tout l'uranium ait été consommé. Après, il y a également eu le défaut de la corrosion sous contrainte. Mm. Voilà, ça, c'est une mauvaise surprise. Ce n'est pas un truc très grave sur le fond. Simplement, ça immobilise les réacteurs le temps qu'on fasse la réparation. C'est ça le sujet. Est-ce que dans ce pays, on s'est donné toutes les chances, j'ai envie de dire, d'avoir un nucléaire qui fonctionne bien ? Non, on ne s'est pas donné toutes les chances parce que quand vous avez un actionnaire, c'est-à-dire le pouvoir politique, qui dit du mal publiquement, assez souvent, de ce que fait l'opérateur dont il a la charge, vous vous retrouvez à l'intérieur de l'opérateur avec des situations qui sont un peu compliquées et dans la filière avec des situations un peu compliquées. Imaginons que vous soyez un chaudronnier travaillant pour la filière nucléaire. Oui, oui, Léa Salamé Incorporated. Et donc, vous entendez le pouvoir politique dire quand même le nucléaire, c'est pas terrible, on va arrêter. Vous avez envie, vous, de continuer à vendre à cette filière. Vous dites, c'est un secteur où je suis sûr de garder mes clients, etc.
Donc, pour vous, ça a été le discours politique.
Il y a contribué. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais je dis que fatalement, il y a contribué, bien sûr.
Les décisions de fermer 14 réacteurs, de fermer Fessenheim,
oui, enfin,
tout ça.
Même si on ne va pas le faire, le discours là-dessus est quelque chose qui crée de l'incertitude. Et quand vous créez de l'incertitude dans une filière économique de long terme, en général, ça n'améliore pas les choses.
Allez, beaucoup de questions au standard. On y va tout de suite. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Vous nous dites faire partie d'Extinction Rébellion. On vous écoute.
Bah oui, on a un petit groupe dans les Hautes-Alpes, comme ça se multiplie un peu de partout. Alors, il n'y a pas qu'Extinction Rébellion, il y a plein de groupes qui se soulèvent. Parce que ça fait trop longtemps qu'on parle, il ne se passe rien. Donc à un moment, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis et il faut un peu aller dans l'action un peu radicale.
Alors, quelle est votre question ?
Par ailleurs, la question, c'était qu'en pensait M. Jancovici ? Il y a un groupe qui s'appelle Scientifiques en Rébellion. Ils sont de plus en plus nombreux à se poser les bonnes questions, me semble-t-il, puisque depuis 1974 et René Dumont, on sait très bien qu'on continue dans la même direction, mais rien ne change. Vous avez pu voir tourner sur le net la courbe des émissions de CO2 liée au nombre de COP, et on voit que non, rien ne change. Donc à un moment, voilà, je voulais voir un peu son point de vue sur ce genre d'action, comme on a vu à de nombreux endroits.
Oui, notamment dans les musées ces dernières semaines. Merci Stéphane pour cette question, Jean-Marc Jancovici, sur ces nouvelles formes de militantisme.
En fait, c'est quelque chose qui existe depuis quand même assez longtemps. La manifestation publique est un truc qui existe depuis assez longtemps. Le fait que dans le cadre de manifestations, il puisse y avoir des gens qui bloquent des trucs, ou etc., ça existe depuis assez longtemps.
La soupe sur les tableaux, vous en pensez quoi, vous ?
C'est assez anecdotique.
Oui, mais vous dites on s'en fouille à la vitre, ou vous dites le
oui,
geste
exactement. Et... Ah, oui. Oui, enfin, je veux dire, c'est pas la soupe sur le tableau, c'est la soupe sur une vitre. On a sali une vitre. Ok, bon, c'est peut-être pas la peine d'en faire tout un fromage. Même les gens qui bloquent des autoroutes ou bloquent des pistes d'aéroports, etc., vous savez, quand une entreprise que je ne nommerai pas bloque la circulation des trains parce que les gens sont en grève, ça met un peu plus le pastis dans la circulation des gens et on dit il y a une grève.
Mais vous, c'est pas contre-productif ces actions ? Est-ce que ça ne parle pas qu'aux convaincus ?
On jugera l'arbre à ses fruits. Je vais le dire autrement. Je ne considère pas que ce soit quelque chose de fondamentalement plus immoral que n'importe quoi d'autre.
Mais là, je vous parle sur l'efficacité, pas la moralité.
Alors, on est bien d'accord. Mais l'efficacité, vous savez, encore une fois, on jugera l'arbre à ses fruits. C'est difficile de savoir. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je comprends le sentiment d'exaspération d'une partie des gens qui se disent quand même... Pourquoi est-ce qu'on est aussi mou à essayer de faire des choses alors même que dans une partie de la population, l'opinion comprend bien qu'il va falloir qu'on change.
Éco-terrorisme, oui, éco-totalitarisme, vous réagissez comment quand vous entendez des
ministres,
éco-terrorisme,
des élus ? C'est une expression qui a été utilisée justement pour la soupe jetée sur des vitres, etc.
Non, aussi par Gérald Darmanin sur la mobilisation dans les Deux-Sèvres contre les bassines.
Oui, c'est pas du terrorisme, c'est une ZAD, c'est pas du terrorisme, c'est une manifestation. Enfin, je veux dire, terrorisme, c'est le Bataclan, c'est quand même pas pareil.
Sur l'application d'Inter, Le Cerf vous pose la question. Il commence par dire qu'il est fan de la rockstar Jancovici. Mais question sur le nucléaire, comment faire avec la pénurie d'eau et les sécheresses ?
Alors ça, ce n'est pas le problème majeur auquel on est affaire avec le nucléaire. Ce qu'on risque de pire, j'ai envie de dire, avec une centrale nucléaire qui aurait un défaut d'approvisionnement en eau, c'est tout simplement qu'elle arrête de produire. Aujourd'hui, une centrale nucléaire qui fonctionne, elle prélève de l'eau dans une rivière. Quand la rivière, enfin, ou un fleuve, quand le fleuve a vraiment beaucoup de débit, en fait, elle rejette l'eau un peu réchauffée. Et quand le fleuve a moins de débit, en fait, l'eau, une partie de l'eau est évaporée dans ces grandes tours de réfrigération là, qui fument. Et ça, ça permet d'utiliser beaucoup moins d'eau pour le refroidissement. Mais la plus grande centrale nucléaire des États-Unis, elle utilise les eaux usées d'une ville pour se refroidir. Donc en fait, ce qu'on risque, il n'y a pas de problème de sûreté avec un défaut d'eau. Il y a juste un sujet qu'on peut baisser la puissance de la centrale parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour la refroidir.
Toujours sur l'appli d'Inter, Laurent nous dit qu'il est en train de lire le livre de Greta Thunberg. J'ai l'impression qu'on est loin de pouvoir rester à 1,5 degré de réchauffement. Quel est votre avis? Est-ce qu'il faut faire le deuil de cet objectif-là?
Alors probablement, sauf comète, nouvelle peste ou guerre thermonucléaire. Oui. Aujourd'hui, le réchauffement planétaire, il est de l'ordre de 0,2 degrés par décennie. Et même dans un scénario de type accord de Paris, on franchirait les 1,5 degrés avant 2050. En fait, le scénario de type accord de Paris, on nous fait franchir transitoirement le seuil avant que ça redescende un peu. On peut discuter du scénario. Mais donc malheureusement, je pense que l'objectif rester sous 1,5 degré, il est mort.
L'avion, pour terminer. Vous dites dans Le Parisien, je suis à titre personnel favorable à un système communiste. Riche ou pauvre, vous auriez droit dans toute votre vie à 3 ou 4 vols par avion dans votre vie, dont 2 dans la jeunesse. Alors, ça m'interroge. Je vais vous dire, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. C'est-à-dire, on a le droit à, disons, 4 vols dans toute notre vie. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion pas seulement pour leurs vacances ou par loisir. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion aussi pour rentrer chez eux et voir leur famille qui habite dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Il y a beaucoup de gens aussi qui voyagent pour le boulot. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là?
Alors, je leur dis plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'avion, c'est 8% du pétrole mondial. Et l'avion est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. D'accord ? Donc, il n'y a pas de solution technique à l'échelle pour conserver les quelques milliards, je ne sais plus exactement combien il y en a maintenant, de passagers aériens qu'on a par an. Il n'y a pas de solution technique à l'échelle.
Mais voilà. Comment on fait ? Vous êtes marocain, vous êtes brésilien, vos parents ?
Je suis désolé de le dire, ils verront moins souvent leurs parents au Brésil et au Maroc.
Mais c'est pas moins souvent avec vous, c'est 4 fois par an.
Ah, alors ça, c'est un autre sujet. C'est une fois qu'il y a moins d'avions, comment vous le répartissez? Et là, vous avez 2 options. À chaque fois que vous devez gérer moins, il n'y a que 2 options, hein, toujours que 2. Vous le gérez par les prix, vous le gérez par les quantités. Et moi, ce que je dis, c'est que je trouve que le système où on gère par les quantités est un système qui est plus égalitaire que le système où on gère par les prix.
Donc 4 fois dans une vie entière?
Non, mais je dis 4, ça peut être 2, ça peut être 5, j'en sais rien, j'ai pas fait les calculs. Mais l'idée, c'est encore une fois, c'est gérer par les quantités plutôt que gérer par les prix.
Mais philosophiquement, c'est quand même l'idée que chacun reste chez soi, en fait. On va pas découvrir d'autres civilisations, on va pas...
Enfin, vous savez, les gens qui prennent l'avion pour aller se mettre dans un hôtel dans une autre ville ou qui se mettent dans un voyage organisé ou qui vont dans un village de vacances, je pense que la découverte d'une autre civilisation, c'est un terme qui peut être un peu exagéré.
Merci Jean-Marc Jancovici. C'est toujours stimulant de dialoguer avec vous au micro de France Inter. Merci beaucoup.